Chapitre 73. Le meurtrier de la chambre 622. Cette nuit-là, Lev Levovitch nous raconta ce qu'Karl et moi ce qui s'était passé durant les mois précédant le meurtre. « Depuis la mort d'Abel et Besner, expliqua Lev, j'avais retrouvé Anastasia. J'étais enfin heureux. Je n'avais qu'une idée en tête, tirer ma révérence d'acteur avec ses personnages et faire ma vie avec Anastasia. Mais je la sentais hésitante à la pensée de quitter Macaire. Elle ne voulait pas lui faire de mal, elle avait peur qu'il ne se suicide. J'ai décidé d'agir sous le masque de Tarnogol. 15 ans plus tôt, j'avais réussi ce que je croyais être le coup du siècle, récupérer les actions de Macaire et Besner en poussant Anastasia dans ses bras. J'étais convaincu qu'il me suffirait de mettre Macaire sous pression pour qu'il accepte de renoncer à sa femme en échange de la présidence. À 5 jours du grand week-end, alors qu'il était certain d'être nommé président, Macaire a découvert que Tarnogol voulait mettre Levovitch à sa place. Il a d'abord réagi comme je l'imaginais. Il s'est liquéfié. Je voulais jouer avec lui, éprouver ses nerfs au maximum, pour qu'il n'ait pas d'autre option que d'échanger Anastasia contre la présidence. Mais Macaire n'avait l'intention de renoncer ni à sa femme, ni à la présidence. Il s'est accroché malgré mes stratagèmes. J'ai donc dû actionner mon plan de dernier recours, faire élire Levovitch par le conseil, mais empêcher l'annonce in extremis, pour acculer Macaire. « Vous auriez mieux fait de ficher le camp avec Anastasia ?» dit Scarlett, pragmatique. Lev sourit, amusé. Vous avez parfaitement raison. Je pense que je me suis accroché pour des raisons ridicules de fierté. Je voulais gagner contre Macaire. Et votre plan pour empêcher l'annonce in extremis, demandai-je à Lev, c'était donc cette intoxication générale? Absolument. C'est moi-même qui ai empoisonné tous ces pauvres gens. J'avais préalablement fait tourner en rond Macaire. 2 jours plus tôt, Wagner lui avait confié du poison, qui n'était que de l'eau et avec lequel il devait se débarrasser de Tarnogol. J'avais toute la latitude pour faire échouer ce faux empoisonnement et pour forcer finalement Macaire à accepter le pacte de Tarnogol. Mais Macaire n'est pas passé à l'action. Alors Wagner, sous prétexte que le poison mettrait trop longtemps à agir, lui a remis une bouteille de vodka soi-disant empoisonnée, arrangée dans le bar des salons du premier étage où se tenait le conseil. Il m'a suffi de profiter d'un moment d'inattention de Macaire pour récupérer la bouteille et faire croire à Macaire qu'il l'avait perdue. Mais est-ce que la bouteille était vraiment empoisonnée ? Demanda Scarlett. Absolument pas, répondit Lev. Je voulais prendre aucun risque. J'avais tout préparé à l'avance depuis des mois. Je m'étais assuré que des cocktails à base de vodka Beluga seraient servis avant le grand bal pour semer la confusion auprès de Macaire si nécessaire. Puis je me suis arrangé pour qu'une bouteille de vodka dans laquelle j'avais mis un vomitif assez puissant atterrisse entre les mains du barman. J'avais marqué la bouteille d'une croix comme celle de Macaire pour qu'il pense que tout était de sa faute. Le vomitif aurait dû faire effet rapidement et le chaos aurait empêché la tenue de la soirée. Mais j'ai du mal à calculer les doses. Quand je me suis rendu compte à 18h30 que le vomitif tardait à produire son effet, j'ai appelé Alfred à la rescousse. Il s'est mêlé aux convives, avec pour consigne de s'évanouir bruyamment au moment de l'annonce. Mais il n'a pas eu le temps de s'exécuter car avant lui, un premier convive s'est finalement effondré, entraînant dans sa chute une nappe et tout ce qu'il y avait sur la table. Aussitôt d'autres ont été malades autour de lui et bientôt tout le monde s'est mis à tomber comme des mouches. J'ai moi-même fait semblant d'être atteint pour écarter tout soupçon. Le plan a fonctionné à merveille. Après cela, Macaire a finalement accepté de renoncer à Anastasia en échange de la présidence. Il ne nous restait plus qu'à nous enfuir. Sauf que Jean-Bénédicte Hansen s'en est mêlé et ça a été la catastrophe. Comment ça ? M'enquis-je. Macaire, persuadé d'avoir potentiellement tué tous les employés de la banque avec sa vodka empoisonnée, s'en était ouvert à son cousin. Ce dernier a alors décidé de le faire chanter. La présidence en échange de son silence. Sauf qu'Anastasia a eu vent de la conversation, et voulant appeler Tarnogol à la rescousse, elle a compris que c'était moi qui interprétais ce personnage. Nous nous sommes disputés, Jean-Bénédicte Hansen nous a surpris, et il a découvert à son tour mon secret. Lev s'interrompit un instant. Un silence régna dans la pièce. Puis il se tourna vers Scarlett et lui demanda « Comment avez-vous su ?» Que le meurtrier était Monsieur Rose? Parce qu'il était le seul à pouvoir aller et venir dans le palace sans qu'on le remarque? Parce qu'il possédait une arme? Elle désigna le tableau le représentant en uniforme de lieutenant-colonel. Je viens de vérifier sur Internet. Les hauts gradés de l'armée suisse possèdent tous des pistolets Sig Sauer P210, de calibre 9 mm, comme l'arme du crime. Et surtout, il avait un mobile. Il voulait vous protéger. Quelques heures avant le meurtre, la sécurité de l'hôtel est intervenue dans la chambre 623. Apparemment une fausse alerte. Mais le chef de la sécurité a indiqué à la police avoir rapporté l'incident au directeur du palace, au vu des événements singuliers de la soirée. J'imagine qu'aussitôt que M. Rose a su qu'il y avait eu un incident dans la chambre 623, il s'est inquiété. Il sait que la chambre 623 est la chambre de Tarnogol. Et il sait également que Tarnogol, c'est vous. Nous savons par les extraits de votre procès pour escroquerie que Tarnogol était un personnage inventé par votre père à la demande de M. Rose pour jouer les clients mystères. Votre père étant mort, M. Rose était donc le seul à savoir que vous étiez désormais Tarnogol. Alors quand M. Rose a appris que Jean-Bénédicte avait découvert votre secret, il a considéré que vous étiez en danger. Samedi 15 décembre, quelques heures avant le meurtre. M. Rose faisait les 100 pas dans son bureau du palace. Il était visiblement très inquiet. Lève le regardait faire, un peu désemparé. « Ne vous faites pas de soucis, M. Rose, je garde la situation sous contrôle. »«
Sous contrôle ? Depuis le temps que je te demande d'arrêter de jouer avec le feu avec Tarnogol, je savais que tu finirais par te faire prendre. Tu te rends compte que tu risques la prison et une amende colossale. Ta carrière va être bousillée, on te prendra tout ce que tu possèdes. »
Jean-Bénédicte a accepté de ne rien révéler si je joue une dernière fois le rôle de Tarnogol demain lors d'une conférence de presse pour le faire nommer président de la banque. Ensuite, je disparaîtrai pour toujours.
Et tu crois que la justice ne te retrouvera pas?
Personne ne saura jamais rien, assura Lève.
Enfin, Lève,
s'emporta M. Rose.
Toi qui es tellement intelligent, comment peux-tu être aussi naïf? Tu crois que Macaire et Besner va accepter de se faire dépouiller de sa banque par son cousin à cause d'un grotesque chantage? Tout cela va très mal se terminer.
Après un long silence, Lève finit par dire « Monsieur Rose, rassurez-vous, j'ai tout prévu. »
« Ça ne me rassure pas du tout. Qu'as-tu prévu ?»«
Vous allez voir, toute cette histoire va exploser au visage de Jean-Bénédicte Hansen, » indiqua Lève. « Ce sera bien fait pour lui. Il a toujours été un faucheton. » Il avait des velléités de putsch au sein de la banque depuis des années, et en particulier depuis la mort d'Abel et Besner. Alors je me suis organisé, comment dire, une assurance vie à ses dépens.
Une assurance vie?
Je savais que le personnage de Tarnogol finirait par être démasqué. En 15 ans, les pratiques bancaires ont beaucoup changé. Il y a 15 ans, on ne posait pas tellement de questions sur les flux financiers. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je me rendais bien compte que les autorités de surveillance bancaire allaient finir par mettre leur nez là-dedans. J'ai donc décidé de me protéger. J'ai collecté des objets appartenant à Jean-Bénédicte pour les mettre dans l'hôtel particulier de Tarnogol. Je me suis arrangé pour faire coïncider leurs agendas. Comme ce fameux lundi soir où j'ai envoyé Macaire à Bâle, je savais que Jean-Bénédicte était à Zurich. J'ai aussi vendu l'hôtel particulier de la rue Saint-Léger que j'avais acheté via une société écran à Jean-Bénédicte pour une bouchée de pain. Il pensait investir dans un fonds immobilier. Je lui ai parlé de retours sensationnels, il m'a fait totalement confiance. Il a viré des fonds à la société écran et s'est retrouvé au final propriétaire d'un immeuble à Genève sans le savoir. Il n'a jamais posé de questions, notamment parce que cela lui rapportait gros. Mais c'était de l'argent que je lui reversais moi-même pour qu'il ne se pose pas de questions. Enfin, tout ça pour vous dire que je voulais brouiller les pistes si cela s'avérait nécessaire. Il me reste une dernière chose à faire.
« Quoi ?»
demanda M. Rose. « Cacher un masque de Tarnogol dans la suite de Jean-Bénédicte. » Quelques instants plus tard, Lève vint trouver Jean-Bénédicte Hansen dans sa chambre, au prétexte de vouloir préparer la conférence de presse du lendemain.
« De quoi veux-tu parler à une heure pareille ?»
s'agaça Jean-Bénédicte Hansen.
« J'étais sur le point d'aller me coucher. »«
Il faut nous assurer que tout est parfaitement au point, » dit Lève. « Les journalistes vont poser beaucoup de questions. Il faudra savoir quoi répondre. » Soudain, on frappa à la porte de la suite.
« Encore ?» s'agaça Jean-Bénédicte Hansen. « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de venir déranger les gens au milieu de la nuit ?»
Il ouvrit la porte, furieux, et s'apaisa en voyant que c'était M. Rose.
« Pardonnez-moi, M. Hansen, » dit M. Rose. « Je sais que c'est une heure indue, mais les circonstances sont exceptionnelles. Puisque vous êtes en charge, au nom du conseil de l'organisation du grand week-end, je dois absolument vous parler. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? »
Lève, profitant de ce que l'attention de Jean-Bénédicte était détournée par le visiteur, déverrouilla discrètement la porte-fenêtre de sa chambre. Les inspecteurs de la police sanitaire sont toujours présents dans nos cuisines. Je voudrais beaucoup que vous les rencontriez, afin qu'ils puissent vous confirmer que l'empoisonnement n'est en aucune façon lié à la nourriture préparée par nos soins. » Jean-Bénédicte n'avait pas l'air très enthousiaste, mais M. Rose insista et il finit par accepter. Lève quitta la chambre 622 pour regagner la sienne, tandis que les deux hommes s'en allèrent en direction des ascenseurs. Dans le secret de la nuit, Lève, un sac à la main dans lequel se trouvait un visage de Tarnogol en silicone, ainsi qu'une veste portée par ce dernier, passa depuis son balcon à celui de la 623, la chambre de Tarnogol, puis gagna celui de la 622, s'introduisant dans la suite de Jean-Bénédicte Hansen par la porte-fenêtre déverrouillée. Lève préleva sur le peigne de Jean-Bénédicte des cheveux qu'il déposa à l'intérieur du masque, qu'il cacha ensuite tout en haut d'une armoire du dressing. Puis, il utilisa le téléphone de la chambre pour appeler la réception et commander un petit déjeuner pour le lendemain matin, identique à celui que Tarnogol avait l'habitude de prendre. Œufs, caviar et un petit verre de vodka. « Quel était le but de cette manœuvre ?» interrogea Scarlett.
« Lors de la conférence de presse du lendemain que Jean-Bénédicte voulait convoquer, je l'aurais accusé publiquement d'avoir incarné Tarnogol pendant 15 ans et d'avoir trahi la banque. De Genève à Verbier, toutes les preuves étaient en place. J'aurais dit avoir mené une enquête depuis des mois, avoir découvert qu'il était le propriétaire de l'hôtel particulier de la rue Saint-Léger, qu'il suffisait d'aller fouiller la chambre, de voir ce qui se cachait dans les armoires, dans son coffre, où se trouvaient les actions de Macaire. Le piège se serait refermé sur lui.
Je dis alors, « Mais M. Rose savait que, grâce à votre plan, s'il éliminait Jean-Bénédicte Hansen, il vous mettrait à l'abri pour toujours, puisque tout le monde penserait qu'il avait incarné Tarnogol. Alors, dans le secret de la nuit, sans se faire voir, il est allé tuer Jean-Bénédicte Hansen de 2 balles de revolver. Il vous a protégé comme un fils. C'était un geste d'amour absolu. »
Lève acquiesça, ému.
Il confia finalement.
« Monsieur Rose m'a finalement tout avoué un soir, à Genève, alors qu'il était venu me soutenir pendant mon procès. Il était malade du crime qu'il avait commis. Mais surtout, il considérait que tout était de sa faute. Qu'en tuant Jean-Bénédicte Hansen, il avait précipité ma chute. Il s'en voulait terriblement. Il répétait que j'allais tout perdre à cause de lui. Ma condamnation l'a anéanti. Il a fini par se suicider la veille de ma sortie de prison. Il avait fait de moi son légataire universel.
« Il vous a légué le palace ?» dit Scarlett. « Vous êtes donc le directeur de cet hôtel, l'insaisissable directeur que je n'ai pas réussi à voir depuis mon arrivée ici. »«
Ouais. Quand j'ai appris que vous enquêtiez sur le meurtre de la chambre 622, j'ai d'abord été inquiet. Puis je me suis dit que c'était l'occasion de faire toute la lumière sur cette affaire. »
Je demandai alors, « Monsieur Lévovitch, où est le revolver de Monsieur Rose à présent ?»
Lévovitch esquissa un sourire.
Il a été saisi par la police après le suicide de M. Rose. Personne n'a jamais fait le lien avec le meurtre du palace. Comme j'étais son héritier, un policier m'a contacté un jour, bien après ma sortie de prison, pour me dire que je pouvais venir récupérer son arme. Je dis que je n'en voulais pas. Le policier m'a alors indiqué, « Si vous ne la récupérerez pas, nous la détruirons. » Je lui ai dit, « Détruisez-la. » Et ils l'ont fait. La police a détruit la seule preuve incriminant M. Rose. Ça a été ma façon de le protéger. Que sommes-nous capables de faire pour défendre les gens qu'on aime? C'est à cela que l'on mesure le sens de sa propre vie.